Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Théodora est le nom d'une impératrice de l'Empire byzantin qui a marqué le début du Moyen-Âge. Dans sa jeunesse, Théodora était une actrice et une prostituée. Son incroyable histoire d'amour avec l'empereur Justinien lui a permis de s'élever au rang d'impératrice. C'est l'histoire de cette femme qui a résisté maintes fois à la violence que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Théodora, prostituée et impératrice de Byzance. Épisode 1, la fille de l'hippodrome. Nous sommes vers 518 après Jésus-Christ, à Apollonia, une ville située en Cyrénaïque sur la côte de la Libye actuelle. Théodora n'a pas 20 ans. Elle a suivi son concubin dans cette cité située loin de chez elle, de l'autre côté de la Méditerranée. Cet homme, Échébolos, a été nommé gouverneur de la région par l'empereur de l'Empire byzantin quelque temps auparavant. Il a tenu à emmener avec lui la jeune femme qui est à la fois actrice et prostituée. On y reviendra. Il se sert d'elle pour ses plaisirs personnels. Il l'utilise aussi pour des activités d'espionnage et d'influence pour lesquelles ses charmes sont bien utiles. Mais pour une raison qu'on ignore, Échébolos s'est lassé de Théodora. Il la jette à la porte de sa demeure, sans rien. La jeune fille n'a même pas d'argent pour prendre un bateau et rentrer chez elle, à Byzance. Elle va devoir trouver une solution pour parcourir les 3000 kilomètres qui la séparent de sa ville natale. C'est le début d'une sorte de voyage initiatique. L'Empire byzantin. Ça nous semble exotique, lointain. Mais les empereurs byzantins, eux, se voient comme des Romains. Faisons un petit flashback. À la fin du 3e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain est hypertrophié. Il va du Proche-Orient au Maroc, sur un axe est-ouest, et de l'Écosse au Soudan, sur un axe nord-sud. Tout ça, c'est vraiment très grand. Pour mieux gérer ce vaste territoire, l'empereur Dioclétien, qui a le pouvoir à l'époque, va créer la tétrarchie. Pour faire simple, Dioclétien va partager l'Empire romain en 4 secteurs administratifs. Chacun est confié à un tétrarque. C'est l'équivalent d'un empereur ou d'un vice-empereur. Mais ce système ne tient pas très longtemps. Peu de temps après, Constantin s'impose seul au pouvoir après avoir vaincu militairement les autres prétendants à l'Empire. C'est lui qui refonde littéralement la ville qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit de Byzance, en 330 après Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant pourquoi la ville de Byzance prend alors le nom de Constantinople. Et plus tard, à l'époque ottomane, elle deviendra Istanbul. Pour Constantin, cette ville, c'est la nouvelle Rome. Il veut qu'elle soit aussi importante que la ville de Rome l'était autrefois. C'est une nouvelle capitale pour l'Empire. Lorsque l'Empire romain d'Occident s'effondre en 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Orient continue à perdurer. Cet empire est devenu chrétien. C'est même la religion officielle de l'État depuis un siècle. Les païens ne sont plus qu'une minorité religieuse opprimée. Les empereurs, quant à eux, arrivent souvent au pouvoir grâce à des coups d'État. Autrement dit, quand notre Théodora voit le jour vers 500 après Jésus-Christ, l'Empire byzantin est assez fragile. Théodora vit dans le quartier de l'Hippodrome, le dernier grand édifice de spectacle hérité de la Rome antique, encore toléré par les chrétiens. Sa mère est actrice. À l'époque, le métier d'actrice et de prostituée, c'est la même chose. On considère que se montrer sur scène, c'est déjà de la prostitution et ça se poursuit bien souvent avec des relations tarifées avec les spectateurs. Le père de Théodora, quant à lui, est dresseur d'ours. Il fait des numéros avec son ours dans l'hippodrome entre deux courses. Cette famille est très modeste, mais elle fait partie du petit monde de l'hippodrome. À cette époque, ce lieu est divisé en deux factions, les Verts et les Bleus. Allez, j'essaye de me lancer dans une petite métaphore footballistique. Ça vaudra ce que ça vaudra. C'est comme si vous aviez le PSG et l'OM qui se partageaient le même stade, chacun avec leurs employés et leurs supporters. Vous imaginez l'ambiance que ça donnerait ? Maintenant, imaginez ça en plein cœur de Byzance, au tout début du Moyen-Âge. Le père de Théodora travaille donc pour l'une de ces deux factions de l'hippodrome, les Verts. Théodora passe son enfance dans ce milieu, dans cet univers d'artistes clivés en deux bandes rivales. C'est dans ce microcosme qu'elle va vivre un drame fondateur qui fait basculer son existence. Le père de Théodora meurt prématurément. Pour ne pas rester seule à une époque où une veuve est toujours vulnérable, sa mère trouve un autre compagnon. Elle demande au chef des Verts de donner la charge professionnelle de feu son mari à son nouveau conjoint, parce qu'à cette époque-là, les charges restent souvent dans la même famille. Mais le patron des Verts a touché des pots de vin et il a donné la fonction de dresseur d'ours à une autre personne. La mère de Théodora décide donc de forcer la main du patron des Verts et pour ça, elle a besoin de ses filles. Imaginez la scène. Théodora a environ 5 ans. Sa grande sœur en a peut-être 7. À côté d'elle, il y a leur mère qui tient sa petite dernière dans les bras. Elles sont toutes habillées en blanc avec des couronnes de fleurs blanches dans les cheveux. À cette époque, ces couronnes évoquent les animaux que les païens emmenaient au sacrifice. C'est un jour de course. L'hippodrome est plein à craquer. Il peut contenir 100 000 personnes. Dans les tribunes, côté est, il y a les bleus. Côté ouest, il y a les verts. Au centre de l'hippodrome, il y a aussi la loge impériale qui est reliée au palais par une coursive privée. Quand l'édifice est plein, le bruit résonne de partout. La poussière s'élève de la piste. C'est très impressionnant. Entre chaque course de char, il y a des petites scénettes sur la spina, le mur central de l'hippodrome autour duquel courent les chevaux. Et c'est là, entre deux courses, que la mère de Théodora et ses filles habillées en suppliantes montent sur la spina et demande devant toute la foule au directeur des Verts de donner un travail au nouveau beau-père de Théodora. Le directeur n'apprécie pas beaucoup qu'on lui force la main en public. Soudain, quelqu'un hurle du côté de la tribune des Bleus. Eux, ils donneront un travail au nouveau mari de cette veuve. À ce moment-là, les Bleus veulent montrer qu'ils sont plus charitables et meilleurs chrétiens que les Verts. Théodora tire une leçon de cette journée. En surjouant la faiblesse, il est possible d'obtenir la protection des puissants. Mais ça impose, comme pour sa mère, de savoir mettre son orgueil de côté. Le problème, c'est que Théodora a beaucoup trop d'orgueil. Ce jour-là, sa mère lui inflige une blessure narcissique qu'elle passera sa vie à cautériser. Les années passent. Dès l'âge de 12 ans, ce qui est l'âge légal à l'époque, Théodora commence sa formation d'actrice. Ça veut dire qu'elle commence aussi la prostitution. Bien sûr, à nos yeux, c'est choquant. Mais les Byzantins du VIe siècle ont leurs règles sociales et une morale différente de la nôtre. Il semblerait que Théodora ne soit pas une grande actrice. Mais elle a un charisme hors du commun. Ses contemporains la décrivent aussi comme étant dotée d'une beauté exceptionnelle. Elle était vraisemblablement brune, avec la peau légèrement mate. Elle se fait connaître du public en jouant des pièces érotiques dans des petits théâtres. Ces établissements étaient évidemment condamnés par la morale chrétienne, mais beaucoup d'aristocrates venaient discrètement s'y encanailler. Quand elle sort de scène, Théodora est très sollicitée. Mais elle repousse les avances de beaucoup de clients potentiels. Elle n'hésite pas à utiliser son humour corrosif pour rabaisser les hommes qui lui déplaisent. Elle ne se vend qu'à ceux qui sont prêts à payer des fortunes. Très vite, elle se fait une réputation de courtisane inaccessible, ce qui décuple son succès. À 16 ou 17 ans, elle est la star du tout Byzance. C'est sans doute au cours d'une soirée très privée qu'elle rencontre Ekebolos. C'est un haut fonctionnaire de l'Empire originaire de Tyr, une ville riche située dans l'actuel Liban. Ekebolos est probablement un homme marié, mais de toute façon, une loi de l'empereur romain Auguste, vieille de 500 ans, interdit aux aristocrates d'épouser des prostituées. Cependant, cet homme a un coup de cœur pour Théodora. Il lui propose de le suivre dans sa nouvelle mission de gouverneur en Cyrénaïque, une région qui correspond à la Libye actuelle. Théodora accepte. Pour une prostituée de luxe comme elle, c'est un moyen de se fixer auprès d'un seul client au statut social prestigieux. La Byzantine suit donc son amant dans la cité d'Apollonia sur la côte sud de la Méditerranée. Elle croyait être traitée en princesse, elle réalise vite qu'elle s'est trompée. Ekebolos fait d'elle une sorte d'agent de renseignement et d'influence auprès de l'aristocratie locale. Un agent qui utilise le sexe comme outil de persuasion. Au moins, Théodora apprend les rouages de la politique. Mais pour une raison qu'on ignore, Ekebolos se lasse de sa concubine et la jette à la rue, sans un sou. Pour rentrer à Byzance, Théodora, qui n'a que 18 ou 19 ans, fait un choix étonnant. Elle décide de rentrer à pied en longeant toute la côte est de la Méditerranée. C'est un périple de près de 3000 kilomètres. Je pense que Théodora a voyagé de ville en ville en trouvant refuge dans des organisations religieuses charitables. Elle a aussi pu être hébergée dans les hippodromes des grandes villes parce qu'il y avait des réseaux de solidarité entre les gens du spectacle. C'est ce voyage qui a presque une valeur initiatique qui renforce la foi chrétienne de Théodora. Pendant qu'elle prie dans une église d'Alexandrie qui est l'un des grands centres culturels de l'époque, faisons un petit zoom sur le christianisme au début du Moyen-Âge. Pas de panique, on va pas se lancer dans un grand cours de théologie. Pour faire très simple, retenez seulement que le monde chrétien est alors divisé en deux. Depuis le concile de Chalcédoine de 451, la majorité des chrétiens est diophysite. Ces croyants pensent que le Christ possède deux natures, une humaine et une divine. Mais une partie minoritaire du monde chrétien, notamment à l'est de la Méditerranée, ne suit pas l'avis du concile de Chalcédoine. Ces fidèles pensent que le Christ n'a qu'une seule nature divine. Les chrétiens qui pensent comme ça sont appelés des monophysites. Ces querelles théologiques vont aboutir à des persécutions des monophysites par les diophysites. Et c'est sans doute pendant qu'elle écoute des prêches dans des églises d'Alexandrie que Théodora devient une monophysite convaincue. Il est temps de poursuivre avec Théodora notre voyage sur les rives de la Méditerranée. Au bout de quelques temps, la courtisane arrive à Antioche, une ville située dans le sud de l'actuelle Turquie. Antioche est une des grandes villes de l'Empire et possède son propre hippodrome. Comme d'habitude, Théodora vient demander la charité dans cet établissement de spectacle. Une comédienne plus âgée qu'elle la prend alors sous son aile. Cette femme s'appelle Macédonia et elle va changer le cours de son existence. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Théodora, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.